Le journal Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un nouveau témoignage accablant sur le rôle de Paris au Rwanda. 25 ans après le génocide des Tutsis, la cellule d'investigation de Radio France a recueilli l'interview inédite d'un ancien général qui accuse l'armée d'avoir ignoré des signes avant-coureurs. Révélation à venir dans un instant. Dans l'actualité également, le nom des députés britanniques à un no deal. Boeing cloué au sol, y compris aux États-Unis. Les côtes atlantiques françaises menacées par des galettes de fioul. On parlera dans ce journal de la grève des agents des finances publiques qui disent ne plus avoir les moyens de faire leur travail. Nous serons en Algérie avec des manifestants qui se préparent avant le rassemblement très attendu de demain. Et puis un rappel pour les fouteux, Lyon sèchement éliminé de la Ligue des Champions. Grosse leçon de foot hier face au Barça, étrier 5-1.
Je vous rappelle que la comédienne Yolande Moreau à l'affiche du film Rebelle est l'invitée de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
25 ans après le génocide rwandais, Sébastien, le rôle de la France pose toujours question.
La France a-t-elle commis des fautes? A-t-elle fermé les yeux sur ce qui se préparait? A-t-elle même armé les génocidaires? De nouveaux témoignages viennent jeter le trouble ce matin. La cellule d'investigation de Radio France et Mediapart ont notamment rencontré un militaire de haut rang qui s'interroge depuis 1994 sur le comportement de la hiérarchie militaire et des services de l'État. Benoît Colomba.
À 82 ans, le général Jean Varret sort de son silence. En 1990, il était chef de la mission militaire de coopération au Rwanda et il a vu la mécanique du génocide se mettre en place. Voilà ce que lui dit à l'époque le chef de la gendarmerie rwandaise qui veut des armes.
Il me dit, on est en tête à tête, on est militaire, on va parler clairement. Je vous demande ces armes car je vais participer avec l'armée à la liquidation du problème. Le problème est très simple, c'est que les Tutsis ne sont pas très nombreux, on va les liquider.
Jean Varret prévient sa hiérarchie, sans réaction. En 1993, il est écarté de son poste. Certains militaires français sont allés trop loin dans le soutien au pouvoir rwandais, quitte à ignorer les risques de génocide, affirme aujourd'hui Jean Varret.
Malheureusement, l'histoire a prouvé que c'était une faute, plus qu'une erreur, puisque ça a débouché sur un génocide.
Autre témoignage, celui de Valfrado Chi, ce logisticien pour la Croix-Rouge, a vu des caisses d'armes pour les extrémistes Hutus transportées dans des avions militaires français en plein génocide depuis l'aéroport de Goma au Zaïre. Des témoignages contestés par le chef d'état-major des armées à l'époque, l'amiral Langsad, pour qui la France est intervenue pour empêcher le Rwanda de sombrer dans le chaos.
Benoît Colomba, des témoignages à retrouver en longueur sur le site de franceinter.fr et ce soir dans le 18-20 avec Fabienne Saint-Esse.
Et une journée décisive demain chez nos voisins méditerranéens, l'Algérie se prépare à redescendre dans la rue.
Quatrième vendredi de manifestation, mais premier rassemblement depuis le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Un renoncement qui est loin d'avoir calmé la rue, bien au contraire. Alors question centrale, comment l'armée algérienne va-t-elle réagir cette fois? Certains craignent des dérapages. Les jeunes manifestants, eux, ne semblent pas inquiets à la veille de ce test crucial. Ils se préoccupent surtout de savoir comment poursuivre et organiser leur mouvement. Écoutez le reportage de notre envoyé spécial Waïba Filali.
Square du Port Saïd à Alger, un collectif réunissant artistes, militants politiques, militants associatifs s'installe sur des escaliers pour débattre, réciter de la poésie imaginée pendant les manifestations.
On s'est battu et on se bat. Peuple digne qui ne meurt pas.
Ici, on chante, on rappe, on donne son avis, mais personne ne décide, ni les syndicats, ni les partis politiques.
C'est une conscience qui s'est éveillée.
Et ça va durer longtemps comme cela, selon Makassi Tinhinen, qui fait partie d'une association de défense des droits des femmes.
Il n'y a pas de figure, il n'y a pas de parti, il n'y a personne derrière. On n'en veut pas un même. Vous partez de la pensée de ce qu'on voit en politique en Europe, d'individus qui ont guidé les peuples, etc. Nous, on vient d'une histoire où le leadership n'a pas existé pendant notre histoire. Et on n'a pas eu un seul héros, on a eu les héros de l'indépendance. Mais on reste toujours conscient d'une chose, un seul héros, le peuple, uni.
Un avis que ne partage pas du tout Jalel Mokhlani, il est membre de l'association RAGE, Rassemblement Action Jeunesse.
C'est un mouvement spontané et citoyen, mais au bout d'un moment, il faut qu'il soit encadré, il faut qu'il y ait des porte-paroles à ce mouvement, pas dans le sens d'être la voix du peuple, mais dans le sens beaucoup plus d'être les fédérateurs entre les citoyens et les partis du pouvoir.
Un profil semble même se dégager selon lui, c'est celui d'un avocat, Mustapha Bouchachi, avocat et défenseur des droits de l'homme.
Le reportage à Alger de Ouaïba, Filali a noté les déclarations de plusieurs hauts responsables algériens hier. Le gouvernement se dit prêt à un dialogue avec l'opposition, selon le nouveau vice-premier ministre, et le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, assure lui que l'armée, je cite, garantirait dans toutes les circonstances et toutes les conditions la sécurité du pays. En bref, encore à l'étranger, les États-Unis n'auront pas résisté à la pression. À leur tour, ils ont dû clouer au sol leur Boeing 737 Max. Le coup de force de Theresa May qui lance un ultimatum aux députés. La première ministre veut à nouveau soumettre au vote son accord avec l'Europe sur le Brexit, pourtant déjà rejeté deux fois. Si les parlementaires l'acceptent, elle s'engage à demander un report du Brexit, mais court et technique, avec une sortie de l'Europe au maximum le 30 juin. Soit les députés rejettent de nouveau l'accord, et alors Theresa May menace d'un report beaucoup plus long, et pourquoi pas d'un nouveau référendum. L'actualité en France, c'est cette grève aujourd'hui des agents des finances publiques, ceux qui répondent au téléphone quand vous ne comprenez pas votre feuille d'impôt, ceux qui vous accueillent dans les perceptions ou qui enquêtent sur les fraudes fiscales, des missions qu'ils n'arrivent plus à assurer, selon les syndicats, à cause notamment des suppressions d'emplois, plus de 40 000 en l'espace de 15 ans. Les précisions de Manuel Ruffez.
On n'a même plus l'impôt sur les eaux. C'est sous cette bannière en forme de jeu de mots que les agents des impôts vont manifester aujourd'hui. En termes d'effectifs, ils sont passés, dénoncent-ils, de 140 000 il y a encore une dizaine d'années, à environ 100 000 aujourd'hui. Et on nous demande d'en faire toujours plus, affirment les syndicats. On doit stopper ces attaques contre notre administration, dit la porte-parole de Solidaires, Anne Guyot-Velk.
On décide, nous, les agents des finances publiques, de montrer notre ras-le-bol face à la destruction programmée d'une administration. On nous prévoit d'ores et déjà entre 10 et 30 000 suppressions d'emplois d'ici la fin du quinquennat. Donc l'état des lieux était déjà catastrophique et les perspectives le sont encore plus.
Et les conséquences, eh bien, ce sont les contribuables qui les subissent. Pour Olivier Courbe, va debout de la CGT.
C'est difficile de nous avoir au téléphone parce qu'il n'y a pas assez de monde qui réponde. Quand ils viennent à nos guichets, ils attendent longtemps. Toujours pareil, il n'y a pas assez de monde. Nous, par exemple, on pense que terme de contrôle fiscal, on ne peut pas traiter tous les dossiers. On a des difficultés à exercer correctement, à nos yeux, le contrôle des dépenses publiques, qui est aussi une des missions de la DGFiP. À nos yeux, on ne rend pas le service public qu'on devrait rendre à nos concitoyens.
Un constat qui fait dire aujourd'hui aux syndicats que leur administration est en situation d'état d'urgence.
Manuel Ruffez du service économique de France Inter. Une nouvelle plainte pour agression sexuelle, la troisième contre le représentant du Vatican en France, Monseigneur Luigi Ventura, accusé dans d'autres affaires d'attouchement sexuel, de mains aux fesses assez appuyées. Les plaignants demandent au Quai d'Orsay de lever son immunité diplomatique. Actualité judiciaire encore avec le début d'un procès qui s'annonce complexe, le procès du meurtre de la joggeuse de Boulogne, Patricia Bouchon, 49 ans, retrouvée morte il y a 8 ans au nord de Toulouse. Principal suspect, Laurent Desjean, un marginal malade mental qui nie depuis le début. Son comportement intrigue, mais il n'y a pas de preuve irréfutable.
Il est 7h37, le grand débat touche à sa fin. Vive les conférences citoyennes.
Demain, vendredi 15 mars, terminées les réunions aux quatre coins du pays, les consultations sur Internet, place donc à la remontée des doléances, à la synthèse, avec 13 conférences citoyennes régionales, 13 grands-messes où sont conviés à chaque fois 70 citoyens tirés au sort, des citoyens qui hésitent entre curiosité, enthousiasme et scepticisme. Notre reporter Rémi Brancato en a joint quelques-uns.
Elle a reçu un SMS d'invitation à la conférence de Bretagne et elle a immédiatement répondu oui. La semaine prochaine, Cécile Staros devra quitter Quimper pour être à Rennes vendredi à 16h.
Je vais m'organiser pour mon travail, c'est-à-dire que je vais anticiper ce que je fais avant. J'ai la possibilité de prendre l'après-midi, ça pose pas de problème.
Le train et la nuit d'hôtel sont payés. Pour Cécile, qui travaille dans une collectivité territoriale, l'exercice citoyen est une chance, mais aussi l'occasion de défendre, dit-elle, les services publics.
J'en attends pas forcément des miracles, mais ça m'intéresse d'y aller, de voir comment c'est organisé. On nous a juste précisé que ça se ferait sans doute en petit groupe de travail, que tous les participants pourront prendre la parole, qu'on ne nous demande pas de connaissances spécifiques en fait. Et j'aimerais bien que ma voix soit entendue parmi d'autres.
Les participants devraient notamment se pencher sur les propositions qui émanent de deux mois de grand débat.
J'ai assimilé un petit peu ça à tirer au sort pour être jury d'une affaire pénale, donc j'ai accepté.
David Reviriego, étudiant parisien de 21 ans, partira lui aussi la semaine prochaine à Aix-en-Provence pour la conférence spéciale jeunesse. Enthousiaste mais dubitatif. positif sur la méthode.
Si on invite des jeunes pour leur dire vous parlez entre vous sans vous préparer, c'est comme si on nous invite à un concours en fait, qu'on nous dit allez-y sans vous préparer. Moi je mets en garde le gouvernement, attention, vous nous invitez, on joue le jeu, à vous de jouer le jeu derrière. Si quelque part derrière il n'y a pas de désengagement précis, ça va être difficile.
Et il espère notamment des engagements pour plus d'écologie et de démocratie participative.
Un premier cas mortel de rougeole cette année. La victime était très fragile et non vaccinée. Depuis le début de l'année, la maladie a touché 350 personnes en France, soit trois fois moins qu'au cours de la même période l'an dernier. Cette fois, la Russie n'a pas le droit à l'erreur. Lancement ce soir d'une nouvelle fusée Soyouz avec à son bord deux astronautes américains et russes, les mêmes dont le lanceur avait explosé en vol il y a cinq mois. Direction la station spatiale internationale, départ à 19h14 précise.
Et on termine, Sébastien, avec une petite Madeleine de Proust pour la génération des quadras, la vôtre, mais pas seulement.
Et la vôtre également, c'était l'une des vedettes du club Dorothée, vous vous en souvenez, une petite queue de singe et une force extraordinaire, Sangoku, le héros de Dragon Ball. Eh bien, Sangoku est de retour avec un nouvel opus cette semaine au cinéma, Dragon Ball Super Broly, 20e film de la saga aux 250 millions de ventes, 30 ans que le manga fait un carton. Corinne Pellissier.
C'est l'une des bandes dessinées les plus vendues dans le monde. Un manga écoulé toutes les 30 secondes en France. Des séries télé, des jeux vidéo, des films et trois générations de fans qui sans doute n'auront aucun mal à retrouver leur marque. Entre les Dragon Ball, Dragon Ball Z ou encore Dragon Ball Super, dernière franchise lancée en 2016 et dont s'inspire ce nouveau film écrit et supervisé par Akira Toriyama, le créateur de la saga. La suite directe des aventures de Son Goku, Vegeta confronté à un nouvel ennemi plus terrible encore que les précédents.
Là en bas, ce sont les hommes de Freezer.
Ce sont des Saiyans, tout comme vous. Le plus jeune se prénomme Broly et il est accompagné de son père.
Des combats toujours explosifs, de grands moments d'arts martiaux, de l'humour et un affrontement final des plus spectaculaires dans un immense éclat de couleurs. Ce n'est pas un hasard si le personnage de la saga a été choisi pour accompagner le lancement des prochains JO de Tokyo en 2020. Le film sorti en salle mi-décembre au Japon s'est classé directement à la première place du box-office.
Il a été conditionné pour être violent, ça vient pas de lui.
La Dragon Ball Super Broly et sa très brutale bonne sonore, ça sort aujourd'hui.
Merci Sébastien, c'était le journal de Sébastien Logeni.